Donc, tout le monde est en sourdine pour l'instant, mais à la fin, on mettra la possibilité de reprendre votre micro pour quand on va arriver aux questions puis aux commentaires. Donc, on continue. Bienvenue à tous. On est bien contents. Il y en a qui c'est la première fois cet automne qui se connectent. On vous souhaite la bienvenue. Ceux qui étaient là la semaine passée, bien, on est contents encore de vous revoir. Puis, on va continuer notre étude. On avait commencé l'année passée, on avait commencé l'étude sur l'Épître aux Hébreux. Puis on avait fait jusqu'au chapitre 11, à la fin de l'hiver, au printemps. Puis on avait arrêté pour l'été. Maintenant, on recommence. On a commencé la semaine passée avec le chapitre 12. Puis c'est là qu'on est rendu présentement au chapitre 12. La semaine passée, on avait vu le début du chapitre qui nous parle de courir dans une carrière qui nous est ouverte. Puis les yeux fixés sur le Seigneur Jésus en parlant de la grande nuée de témoins qui étaient les hommes de foi, les femmes de foi, les hommes et les femmes de foi de Hébreux 11, qui, eux, ils ont couru la course. Puis là, maintenant, nous, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, bien, on veut aussi courir. Mais il nous avait parlé la semaine passée, on a regardé qu'il y avait trois choses qui pouvaient nous empêcher de courir dans la carrière. C'était les fardeaux, puis le péché qui nous enveloppe si facilement. Puis aussi, c'était de ne pas être lassé, l'âme découragée pour continuer. On avait dit aussi que ce qui était la solution à ces trois problèmes-là, c'était le châtiment du Seigneur. Le Seigneur nous châtie parce qu'il nous aime pour nous garder dans la course. Puis c'est là qu'on est rendu, on avait commencé à parler du châtiment, puis on va continuer dans ce domaine-là aujourd'hui. On va peut-être commencer à lire à partir du verset 3 de chapitre 12 de Hébreux. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Attendez un petit peu. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui parle, celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Le Seigneur va bénir la lecture de sa parole ensemble. On va demander son aide avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, on est dans ta présence encore ce soir. On te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui se sont connectés ce soir pour cette étude de la parole. On te demande de nous aider par ton esprit, notre Dieu, à bien comprendre les instructions que tu nous donnes, afin qu'on puisse être un peuple qui t'aime, notre Dieu, en retour de l'amour que tu nous as démontré dans ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et que cet amour se manifeste par une vie d'obéissance, une vie qui puisse te plaire, notre Dieu. Tu nous as racheté à un grand prix, puis on t'appartient, Seigneur, et on veut te suivre et te servir. On te remercie pour tout cela, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on avait dit que les trois derniers chapitres de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, c'était la foi. Le chapitre 12, c'est l'amour et la persévérance. Parler des trois choses, l'amour, la foi, attendez un petit peu, l'amour, l'espérance, chapitre 12, et le chapitre 13, c'est l'amour. Donc, le chapitre 11, c'est la foi. Le chapitre 12, c'est l'espérance qu'on voit maintenant. Puis, le chapitre 13, c'est l'amour. Donc, on avait dit que c'est ça, le châtiment, c'est en rapport avec les trois problèmes, c'est-à-dire les fardeaux, quand on est encombré de des fardeaux qui nous empêchent de courir, comme un coureur se débarrasse de fardeaux qui l'empêchent de performer, bien nous aussi, on a besoin de se débarrasser des fardeaux qui nous empêchent de courir dans la carrière. Aussi le péché qui nous environne, qui nous enveloppe si facilement, puis aussi de ne pas se lasser l'âme découragée. Donc, c'est pour nous corriger dans nos voies que le châtiment du Seigneur, c'est une bénédiction que le Seigneur nous fait de nous châtier. C'est certain que la première pensée du châtiment, ce n'est pas un sujet de joie, comme il nous dit, mais ça produit un fruit paisible de justice. C'est pour notre bien qu'il le fait. On voit dans le verset 12 et 13, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Donc, c'est le but de la correction. Paul en parle aussi dans Éphésiens, au chapitre 6, au verset 4, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, les élever, ben c'est les enseigner dans la voie qu'ils doivent suivre. Puis, des fois, il y a besoin de correction quand on prend une mauvaise voie en les corrigeant. Donc, il y a la correction, mais aussi, il y a l'instruction aussi. C'est pas juste de corriger, mais il faut maintenant donner l'instruction pour qu'on puisse marcher dans la bonne voie. Ça, c'est important. Ça fait partie du châtiment ou de la discipline. On pourrait l'appeler la discipline. Dans 2 Timothée 3, 16, 17 aussi, il nous parle de l'Écriture qui fait ça aussi. Il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, il y a l'enseignement pour la marche qu'on a. Puis, quand on fait faux pas, quand on se détourne, bien, il y a la conviction qui vient aussi. L'Écriture nous convainc. Puis nous convainc qu'on est dans la mauvaise voie. Le travail du Saint-Esprit pour nous convaincre. Ensuite de ça, il y a la correction. L'Écriture va nous convaincre. C'est sûr, quand on prend une mauvaise voie, l'Écriture va nous. Quand on vient dans l'Écriture, bien, l'Écriture va nous convaincre. Elle va nous montrer qu'on est dans la mauvaise voie, on fait un faux pas. Puis elle va, ensuite de ça, nous corriger. L'Écriture a cette puissance-là de nous convaincre, de nous corriger. C'est sûr que c'est avec le Saint-Esprit qui travaille de parallèle avec les Écritures. Puis ensuite de ça, Après nous avoir corrigés, bien, il va nous instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est des choses importantes. Mais dans le verset 10, il dit, nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc, on vit, afin qu'on vive une vie qui est selon le Seigneur, une vie de sainteté. Et quand on pense, comme on a vu les héros de la foi dans le chapitre 11, on sait qu'ils sont mentionnés ici parce qu'ils ont bien terminé, ils ont bien parcouru, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des fautes. Puis l'Écriture nous les donne, elle nous montre qu'ils ont fait, il y a des fois où ces gens-là, ces héros de la foi-là, ils ont fait des mauvais pas. Ils se sont détournés, ils ont failli, on bronche tout de différentes manières, mais le Seigneur les a ramenés par le châtiment. Puis on le voit dans la vie de David, David qui était un homme selon le cœur de Dieu. C'est un homme qui s'est démarqué comme un homme de foi, mais on voit que David il a fait un faux pas. Puis l'Écriture ne passe pas par-dessus, l'Écriture nous le mentionne. Quand on lit des fois des biographies des hommes de Dieu, la plupart du temps, quand c'est les hommes qui les écrivent, on passe sous silence leurs fautes. Mais puis des fois, ça a l'effet de nous décourager parce qu'on se dit, waouh, moi, je ne suis pas comme eux autres, là. On ne peut pas se mesurer à eux autres. Mais eux aussi ont eu leurs fautes. Mais le Saint-Esprit, lui, il nous donne les fautes. Puis c'est là que c'est encourageant pour nous autres, pas pour les dénigrer, mais c'est encourageant pour nous autres de savoir que ces hommes-là étaient des hommes qui étaient de même nature que nous autres, puis ils ont fait des fautes. Mais le Seigneur les a ramenés par le châtiment. Puis on le voit dans David, hein, on sait que David il a fait tout un écart dans sa marche quand il est allé avec Bathsheba, puis qu'il a fait tuer Uri le Héthien. Mais il nous dit dans le psaume 32, il nous parle de sa condition pendant qu'il était dans ce péché-là. Le psaume 32, versets 3 à 5, il dit, tant que je me suis tu, qu'il ne voulait pas confesser, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Puis là, c'est ça que la discipline du Seigneur est venue sur lui. Et la discipline du Seigneur, il a ressenti comme une main pesante qui était sur lui. Puis ses os se desséchaient, puis sa vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Mais ça l'a amené jusqu'au point où il a dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Donc, on voit ici de comment le châtiment de Dieu, la discipline de Dieu a travaillé pour restaurer David. Puis, on sait qu'il y a les conséquences qui ont resté, mais Dieu a pardonné à David. Puis, David a pu continuer de servir le Seigneur. Puis, il peut être mentionné comme un homme de foi, un homme qui a parcouru la course, il a couru dans la carrière qui était devant lui, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mais quand on arrive au verset 12-13, il dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Donc ici, il nous parle des mains, il nous parle des genoux, il nous parle aussi des pieds. Les mains, c'est les activités. Hein. Avec nos mains, ça représente les activités qu'on fait dans notre vie, dans la course qu'on. Donc, il parle aussi des mains languissantes ou des mains qui sont fatiguées. Donc, il faut que c'est raffermir, fortifier ces mains languissantes. Aussi, les genoux. Ben, les genoux, ça nous parle de la prière. Hein. Des fois, on se relâche un peu dans la prière, puis, mais il ne faut pas se relâcher dans la prière. Parce que si on se relâche dans la prière, bientôt nos activités ne seront plus, puis notre marche aussi va être affectée. Parce qu'on a besoin. La prière, c'est la communication que Dieu nous a donnée. C'est un merveilleux privilège de pouvoir s'adresser au Dieu d'éternité, au Dieu qui nous a créés, au Dieu qui nous connaît dans notre être le plus intime. Il peut, lui, discerner les choses qui ont besoin. Des fois, on fait fausse route sans s'en rendre compte. Puis le Seigneur, lui, on lui dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Puis regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi dans la voie de l'éternité. Donc, les genoux, on a besoin de la prière. Puis la prière, des fois, c'est pas juste, oui, on s'adresse à Dieu, mais des fois, il faut l'écouter. Des fois, il faut être tranquille dans sa présence. Il faut le laisser nous instruire. Puis quand on lit sa parole, bien, par sa parole, il est capable de nous convaincre, de nous corriger, puis de nous instruire pour qu'on puisse marcher dans ses voies. Donc, puis quand on pense aux pieds, bien, les pieds, c'est la marche. Et la marche, bien, c'est ça, le Seigneur, il va nous raffermir dans notre marche. C'est comme ces gens-là, David a fait un faux pas, il a marché dans une mauvaise direction. Puis le Seigneur l'a ramené pour qu'il puisse continuer à marcher d'une bonne façon. Au verset 14, il dit: Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est certain qu'on a tous nos caractères, on a tous notre façon d'être, puis des fois, ça peut devenir difficile de fonctionner ensemble, mais il faut rechercher la paix avec tous. Ça ne veut pas dire qu'on peut avoir la paix parce que ça ne dépend pas juste de nous. Mais de notre côté, on ne peut pas changer les autres, mais nous, il faut faire attention. Dans la présence du Seigneur, quand on se laisse instruire par le Seigneur, bien, on va rechercher la paix avec tous. Puis ça, c'est l'harmonie. Puis c'est important qu'on soit dans l'harmonie pour fonctionner ensemble parce qu'on fonctionne comme le corps de Christ. Chacun pour sa part, on est différents, on est des membres différents, mais étant tous harmonisés par la tête, quand on est bien en contact avec la tête qui nous dirige, bien, ça va faire une harmonie. Puis c'est ça que c'est important. Un corps qui n'est pas harmonisé ne peut pas fonctionner. Donc, c'est important, la paix, l'harmonie, puis qu'on soit unis dans la pensée de Christ. Dans Philippiens 3, 15, 16, Paul dit aux Philippiens: Nous tous, donc, qui sommes des hommes faits. Donc, il parle de des gens qui ont maturé dans la foi. De tous, donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, donc, il y a des gens qui disent, ben, on est d'accord d'être en désaccord. Non, c'est pas ça que le verset nous dit. Il dit, si vous êtes en, ayons cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera. Aussi là-dessus, seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Donc, c'est Dieu qui va. Il faut se tourner vers Dieu. Si on est en désaccord, il faut se tourner vers Dieu. Puis c'est lui qui va nous ramener dans l'harmonie, parce que c'est sûr que, étant le chef de l'Église, le Seigneur Jésus étant le chef de l'Église, lui, il peut nous emmener dans le. Il va nous convaincre, il va nous corriger, puis il va nous instruire. Ça, c'est important. Donc, on pense aussi à l'importance de la sanctification. Puis, c'est ça, aujourd'hui, il y a bien des gens qui pensent pas à la sanctification. Mais on a besoin de sanctification. Puis, il n'y a rien d'autre qui va produire la sanctification en nous comme la communion avec le Seigneur. Par son esprit, c'est là qu'on va être transformé. Comme il dit dans 2 Corinthiens, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est vraiment important que chacun de nous, on puisse passer du temps à contempler le Seigneur Jésus dans sa parole. Puis, en le contemplant, plus on va le contempler, plus on va passer du temps avec lui. On dit ça, hein, des fois, qui s'assemble se ressemble. Bien, si on passe du temps dans la présence du Seigneur, bien, on va commencer à ressembler de plus en plus au Seigneur. Parce que c'est un effet de son Esprit qui nous transforme de gloire en gloire. C'est progressif. La sanctification qu'on connaît présentement, c'est une sanctification progressive. C'est qu'elle se fait à tous les jours. Puis on en a besoin. Parce que c'est pas long, vous savez, si on se détourne, c'est pas long qu'on commence à ressembler au monde. Mais plus on se tourne vers le Seigneur, plus on va ressembler au Seigneur. Donc, c'est de vivre séparé de ce qui est présent. Parce que les gens dans le monde, ils vivent pour aujourd'hui, sans penser au lendemain. De ce qui est présent et visible, c'est le monde, des choses qui nous attirent dans le monde. Mais en attendant, en attendant de ce qui est caché et futur. C'est qu'on vit, nous autres, la foi, il nous dit, hein, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Puis, donc, on vit à cause de la foi, on vit à cause des choses futures qui ne sont pas visibles. Le monde ne les voit pas. Nous autres, on les voit dans la parole de Dieu. Puis, c'est de vivre dans l'attente. La sanctification, c'est de vivre, de se séparer de ce qui est ici, du monde, pour vivre dans l'attente de ce qui va être pour l'éternité. Donc, ça, c'est le Seigneur. pour ne pas être dans la honte quand il va revenir. Quand le Seigneur va revenir, on ne sera pas dans la honte parce qu'on va être attiré par lui. On sera pas. Il y a des gens qui disaient ça, hein, des fois, quand il venait d'être sauvé, il était dans un endroit, puis à un moment donné, tout d'un coup, il pensait, si le Seigneur revenait, j'aimerais pas qu'il me voie ici, qu'il me retrouve ici. Puis il y a des endroits, il y a des choses qu'on fait, il y a des pensées même qu'on a. Il faut quand on est près du Seigneur, puis qu'on a hâte à son attente, ben, on ne veut pas être trouvé dans ces situations-là. Là. Ça va être honteux. Donc, c'est comme une fiancée qui attend pour son fiancé, là. Parce qu'il lui a fait une promesse, puis elle l'attend. Puis ça, c'est. Nous autres, on avait, quand j'étais au collège à Rimouski, il y avait au cégep à Rimouski, il y avait une fille qui, elle avait son. Il s'appelait O'Neill. Je me rappelle de son nom, mais je ne me rappelle pas de son nom à elle. Mais je me rappelle de son nom à lui parce que je l'ai vu juste une fois, mais il restait aux îles de la Madeleine. Puis elle vivait pour lui, elle en parlait tout le temps, puis elle était toujours en pensée, elle attendait son O'Neill, puis c'était bien important pour elle. C'est comme ça que nous autres, on devrait vivre, parce que notre bien-aimé, il vient nous chercher, il va venir nous prendre, puis on veut se garder, c'est ça la sainteté, c'est se garder pour lui, se garder pur pour lui, puis se séparer des choses du monde, afin comme il dit ici, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est sûr que quand le Seigneur va venir, ben, juste le moment avant qu'on le voit, dans un instant, dans un clin d'œil, quand la trompette va sonner, qu'on va être enlevé à sa rencontre sur la nuit, ben, on va être transformé. Puis là, la sanctification va être parfaite. La sanctification va être, elle sera plus progressive, mais elle va être complète. On va être complètement transformé dans notre corps, puis dans tout notre être, on va être transformé pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais plus on cherche la sanctification sur la terre, bien plus près on va se trouver du Seigneur. Ça, c'est vraiment important de penser à ça là, ici. Au verset 15, il nous dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand il parle de veiller ici, là, veiller, ben c'est un terme qui nous fait penser aux soins qu'on prend les uns pour les autres. Hein. C'est que on veille les uns sur les autres. Et puis, il faut faire attention, il faut, par amour qu'on fait ça. Là. Donc, c'est quoi de veiller? Pourquoi? Ben, on vient au sujet, là, il y a une tâche que le Seigneur a pris en main, c'est de conduire une compagnie de rachetés à la gloire. C'est ça on avait vu ça dans le chapitre 3 et 4, là, qui nous parlait de Moïse qui avait fait, Dieu avait utilisé Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Il les a rachetés par l'agneau pascal qui avait été immolé, le sang qui avait été mis sur les poteaux de la porte et sur le linteau. Puis là, il avait envoyé un conducteur, il avait envoyé, qui est un type du Seigneur Jésus, il avait envoyé Moïse pour les conduire de l'Égypte à travers le désert, dans toutes les difficultés, les problèmes, les situations qu'ils rencontraient, afin de les faire entrer dans le pays de la promesse. C'est la même chose ici, là. C'est ça qu'il comparait avec le Seigneur Jésus, qui lui maintenant est notre conducteur. Puis il y a une tâche, c'est de nous prendre d'ici, de ce qu'on était, pour nous emmener dans un cheminement jusque qu'à soit qu'on rentre dans la maison du Père. Le Seigneur, il va faire ça. Donc, à ce sujet-là, il faut veiller. Il faut veiller les uns sur les autres pour prendre soin des uns des autres. C'est vraiment important. Puis ça, on pense à ça en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. On avait vu ça dans le chapitre 6. On va aller dans le chapitre 6, les versets 17 et 19, là. Le Seigneur, regardez, la fidélité de Dieu, là, c'est important. Dieu, c'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui s'est engagé à nous emmener. Mais il faut l'écouter, mais c'est lui qui va nous emmener. Puis c'est pour ça que si on fait faux pas, il va nous châtier, il va nous donner la discipline, parce que lui, son but, il va l'atteindre. Il nous dit ici, or les hommes, au verset 6 du chapitre, au verset 16 du chapitre 6, il dit, or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons. Comme une ancre de l'âme sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc Dieu a fait la promesse, c'est lui qui s'est engagé pour nous emmener dans la gloire. Il va nous faire. Puis c'est pour ça qu'à travers le cheminement pour se rendre dans la gloire, il y a des choses, il y a des difficultés à rencontrer. On est en terrain ennemi. Mais le Seigneur, quand on aura besoin, il va nous châtier. Il va nous discipliner. Parce que lui, il a fait la promesse, puis il va garder sa promesse. Mais dans un sens, quand il dit ici de veiller à ce que personne. Donc, ça s'adresse un peu à nous aussi, là. Le Seigneur, il veille sur nous autres, mais on doit aussi veiller les uns sur les autres. C'est important qu'on veille les uns pour les autres, sur les autres. Des fois, il y a des gens qui voient d'un mauvais œil et qu'on s'inquiète de leur situation, ils disent, ah ben, tu me surveilles. Non, ben, on veille les uns sur les autres. Vous savez, quand des gens sont au front, à la guerre, là, puis il y a des gens il y avait leurs amis qui ont été blessés, puis ils les ont transportés, ils ont pris soin des autres pour les amener à la sécurité. Mais c'est la même chose, on doit veiller aussi les uns sur les autres. C'est important qu'on prenne soin des uns puis des autres. Puis c'est une marque d'amour que si mon frère ou ma sœur s'égare, que j'aille vers lui ou vers elle pour l'encourager à revenir. Le Seigneur nous a donné cette tâche-là, cette responsabilité-là. Vous voyez, au chapitre 10, au verset 24-25, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Vous savez, si on est seul, c'est difficile des fois de faire une épreuve. Mais s'il y a d'autres avec nous, ça nous encourage. Il dit ici de veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis, qui est très important, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand je faiblis dans ma marche, puis qu'un frère ou une sœur vient m'encourager, ben, c'est merveilleux, vous savez, c'est une sécurité qu'on a ensemble, parce qu'on peut tous tomber. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber, on peut tous tomber. Mais de savoir que j'espère que mes frères et mes sœurs, ils vont m'aimer assez pour venir me corriger, vont venir pour me convaincre, me corriger. Puis m'instruire avec la parole de Dieu pour qu'on puisse continuer ensemble à marcher. Parce y en a plusieurs qui se sont détournés. C'est sûr qu'on ne sait pas, des fois on se demande ce qui était sauvé, ce qui n'était pas sauvé, mais même un chrétien peut se détourner. Il faut faire bien attention, il faut veiller les uns sur les autres. Moi, je me souviens, mon frère qui est plus vieux que moi, j'étais plus petit, puis une fois on était à Montréal, on était allé où ce que les tracts de chemin de fer sur la rue Notre-Dame, là, sur le bord du fleuve, puis on n'avait pas le droit d'aller là, il y avait une clôture, mais on avait réussi à se faufiler, puis on était rendu un bon bout, puis il faisait noir. Puis à un moment donné, les agents de sécurité, ils sont aperçus qu'il y avait des enfants alentour des trains, puis les trains, ça avançait, ça reculait, puis là, ben, ils nous cherchaient. Sans doute, on a pris peur, puis les autres, ils ont tous sauté après le train, puis ils ont parti, mais là, moi, j'étais petit, puis j'étais plus petit qu'eux autres, puis j'essayais de courir pour embarquer moi aussi sur le train, mais là j'avais une peur terrible parce que j'ai dit, eux, ils vont tous partir, puis je vais me ramasser tout seul, puis là, les agents de sécurité vont me trouver. Mais mon frère Philippe, qui était un peu plus vieux que moi, lui, il regardait toujours en arrière pour moi, puis il faisait toujours attention pour que je suive. Puis lui, il était dans une échelle du train, puis il m'a tendu la main, puis il disait, cours, cours. Puis là, je courais le plus vite possible, puis il a réussi à me poigner la main. Puis là, il m'a aidé à embarquer sur l'échelle du train. Mais il m'avait dit, si tu n'avais pas réussi, j'aurais sauté pour rester avec toi. Et vous savez, c'est les soins qu'on doit avoir les uns pour les autres. On doit prendre soin des uns puis les autres. Ça c'est vraiment important. Puis il nous a fait la comparaison que le Seigneur y fait là. D'un père qui élève une famille dans le verset chapitre 11, verset 5 à 11, là, il nous a parlé de ça, hein, comment il nous châtie, nos pères nous châtiaient pour notre bien. Puis de ne pas mépriser le châtiment du Seigneur. C'est par amour comme un père qu'on a parlé des termes, là, des fils d'amour. Si on est exempt du châtiment auquel tous on part, on est donc des enfants illégitimes. Mais on n'est pas des enfants illégitimes. Parce que le Seigneur, il va nous châtier quand on va en avoir besoin. Puis, merci Seigneur pour ça. Dans le psaume 23, il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton, c'est pour la correction. La houlette, c'est pour la direction. Parce que la houlette, il prenait les brebis qui étaient des fois dans un ravin, puis avec le crochet, il pouvait les prendre par le cou puis les faire sortir. Mais le bâton, des fois, il y a besoin d'utiliser le bâton parce que quand une brebis s'obstine à ne pas vouloir obéir, ben c'est pour son bien. C'est important. Au verset 16 à 17, ici, il donne un avertissement. Il dit, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Parce qu'il avait parlé d'une racine d'amertume. Ça, c'est dangereux, une racine d'amertume. Des fois, on se permet d'avoir de l'amertume. Mais l'amertume, ça fait beaucoup plus de mal à celui qui a de l'amertume qu'aux autres. Parce que c'est comme un cancer qui est dans notre âme, là, puis ça va nous vraiment nous. Faut pas se laisser une racine d'amertume. Puis ce qui arrive avec une racine d'amertume, bien ça peut être en moi, mais ça finit par se transmettre aux autres. Et dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient, n'en soient infectés. Vous savez, on a connu, il y a des gens qui étaient dans l'amertume, qui étaient insatisfaits, puis ils transmettent leur insatisfaction. Puis il y a d'autres qui les entendent parler dans leur insatisfaction, puis ils commencent à être insatisfaits aussi. Ça, c'est pas l'œuvre de l'Esprit de Dieu, ça. Faut faire attention, puis ça se transmet, puis à un moment donné, ça peut faire bien du trouble. Hein? Mais ensuite, l'avertissement qu'il nous donne ici, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. On se rappelle l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob, lui, il n'était pas né le premier. C'est Ésaü qui était né le premier. Même si Jacob lui tenait le talon, ben c'est Ésaü qui était sorti en premier. C'était des jumeaux. Puis, il était le premier-né. Dans le premier-né, il y avait une grande bénédiction. Mais finalement, déjà, Rebecca avait su, le Seigneur lui avait dit que le plus vieux serait assujetti au plus jeune. Donc, Dieu visait le deuxième pour la bénédiction. Ça, c'est un principe dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le premier qui a la bénédiction, c'est le deuxième. Puis, il y a tout un enseignement là-dessus qu'on n'entrera pas en grand détail là-dessus. Mais le Seigneur Jésus est le deuxième homme. Dans le premier homme, la malédiction s'est étendue sur toute la race humaine parce qu'il a amené le péché dans le monde. Mais le deuxième homme, le Seigneur Jésus, lui, il nous a donné le salut, puis il nous amène dans la perfection. C'est la même chose avec notre naissance. La première naissance, le Seigneur, il disait, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je vous dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, c'est dans notre deuxième naissance qu'on est béni, puis qu'on a la vie éternelle. C'est pour ça que. Mais il reste une chose que ces gens-là, ces hommes-là, Ésaü et Jacob, ont été des exemples pour nous. Ça nous fait comprendre les principes de Dieu. Ésaü, lui, c'était comme si il pouvait dire, regarde, c'est moi qui ai né le premier, il n'y a pas le choix, là, ça revient à moi. T'sais. Lui, il prenait comme un acquis. Tandis que Jacob, lui, qui était né en deuxième, lui, il désirait cette bénédiction-là. Puis il la voulait, même s'il a utilisé des moyens qui n'étaient pas trop conventionnels. Il a manipulé pour essayer d'avoir la bénédiction, mais il voyait quand même, il avait le désir de lui, il ne la prenait pas pour acquis, cette bénédiction-là. Il savait que s'il l'avait, ça allait être un effet de la grâce. Mais Ésaü, lui, il était profane. La Bible nous dit ici qu'il était profane, il était débauché et profane. Parce que pour lui, cette bénédiction-là, c'était pas si important que ça pour lui. C'est que il nous donne un avertissement ici, là, de pas être comme Ésaü. Puis après ça, il aurait voulu l'avoir, mais il était trop tard. Parce il l'avait bafoué, il avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Donc, il avait abandonné ce qui était à venir, la bénédiction à venir. Il l'a vendu pour quelque chose de présent. Puis ça nous parle. Puis, vous savez, il nous dit, Paul, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis, ne vous attachez pas aux choses de la terre. Donc, c'est là le principe, là. Il faut s'attacher aux choses spirituelles, aux choses célestes, parce qu'elles sont beaucoup plus importantes, parce que ça va être pour toute l'éternité, tandis que les choses terrestres, ben, ça passe. C'est juste un moment. C'est ça qui est important. Mais Ésaü, c'était celui qui avait eu, il avait des grands privilèges, mais qui ne les a pas pris au sérieux. Il a pas pris ces privilèges-là au sérieux, puis il a changé ce qui était précieux mais caché et futur pour profiter de ce qui était présent et visible. Puis la Bible l'appelle profane. Des fois, je dis ça, il y a des gens, vous savez, qui ils vont pas recevoir le salut de Dieu pour des choses futiles. Puis c'est un peu que moi, je fais puis même en tant que chrétien, des fois, on manque des grandes bénédictions parce qu'on manque de comprendre l'importance de ce qui est futur. Puis je compare ça des fois, moi, à un enfant qui aurait hérité d'un héritage, d'un grand héritage. Puis, ce serait facile de venir à un petit enfant et de dire, oh, regarde, signe-moi ça ici, il m'a donné une belle barre de chocolat. Lui, l'enfant, il va voir la barre de chocolat, puis bon, c'est pas grave, il comprend pas, mais plus tard, il va réaliser que il a vendu ça pour rien, il a donné ça pour rien, là. Il y a une barre de chocolat, il est parti, puis toute cette grande richesse qu'il y avait. C'est pour ça quand un enfant hérite de des choses comme ça, bien, on ne laisse pas ça entre ses mains, là. Il y a un tuteur. Un tuteur qui va s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit en âge de pouvoir prendre possession, parce que lui, il va changer ça pour n'importe quoi. Là. Il ne comprend pas l'importance et la grandeur de ce qu'il y a entre les mains, puis il va le changer pour quelque chose qui va lui donner une satisfaction éphémère, puis tout de suite, là. C'est ça qui est arrivé avec Ésaü. Puis plus tard, il en a vu la folie plus tard. Il a compris, comme il dit ici, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. On sait, son père, il a dit que c'est Jacob qui avait eu la bénédiction, puis il allait être béni. Il a compris que c'était la volonté du Seigneur que Jacob soit béni. Puis, mais là, il a dit, t'as pas d'autre bénédiction pour moi? Ben non, il avait tout donné à Jacob. Donc, c'est important. Mais il en a pris soin. Mais si on s'arrête un peu à penser, non? Là, il est en train de parler à des Hébreux. C'est des Juifs. L'Épître aux Hébreux, ça s'adresse à des Juifs. Mais imaginez-vous quelle image ça donnait ici à des Juifs, là. Parce que les autres, c'était les enfants de Jacob. Mais Ésaü, c'était le frère de Jacob. Puis c'était vraiment un exemple marquant pour les autres, là, pour leur dire, regardez, Ésaü, lui, il est parti de son côté, mais Jacob est celui qui a eu la bénédiction que eux, maintenant, les enfants de Jacob, ils pouvaient posséder. C'est important de comprendre ça. C'est un peu aussi comme les vierges folles de Matthieu 25, là. Les autres, ils avaient leurs lampes, mais il n'y avait pas d'huile. C'est que là, ils s'en allaient, ils attendaient l'époux. Sauf que quand l'époux est arrivé, bien, il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Tandis que les autres avaient l'huile. Là, ils ont dit, donnez-nous de l'huile. Ils ont dit, non, allez en acheter. Mais pendant qu'ils sont allés en acheter, l'époux est venu, puis les autres sont partis. Donc, c'est vraiment de réaliser l'importance des choses spirituelles, des choses à venir, des grandes bénédictions, puis de vivre dans l'attente de ces choses-là, puis d'être prêt pour ces choses-là. Au verset 18 à 21, il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Là maintenant, il a fait la comparaison avec l'ancienne alliance. C'est pour ça qu'il parlait de ne pas retourner à l'ancienne alliance. Mais maintenant, la nouvelle alliance qui nous est offerte est tellement plus merveilleuse ici, là. Parce que eux, ils n'avaient pas la relation. Dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas la relation de père-fils. Comme il nous parle ici, là, dans le chapitre 11, 12, des versets 5 à 8, là, il nous parle d'une relation père-fils. Ça, c'est une relation tellement plus grande. Là, il va faire la comparaison de cette relation-là avec la relation que le peuple dans l'Ancien Testament avait, là. Ils se sont approchés d'une montagne qui était fumante, qu'on pouvait toucher, puis qui était embrasée par le feu. Puis c'était un spectacle terrible, là, quand ils ont. Puis ils ont fini par dire, là, non, non, que Dieu ne nous parle plus, là, parce qu'on ne serait pas capable de supporter ça, mais qu'il te parle à toi, Moïse. Mais même Moïse était épouvanté. Mais il dit, il va parler à toi, puis là, toi, tu nous parleras. Ça fait qu'il y avait, il y avait pas la proximité que nous autres, on a là, dans le Seigneur. C'est pour ça que c'était important de comprendre ça. Et eux, ils étaient confrontés à la sainteté de Dieu sans une relation intime avec lui. Voyez-vous, verset 19, il dit, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Fait qu'il n'y avait pas la même relation que nous autres, on peut se réjouir dans le Seigneur. Eux, ils avaient besoin d'un intermédiaire. Ils avaient besoin de quelqu'un qui était entre Dieu puis eux. Ils ne pouvaient pas supporter les paroles de Dieu. C'était trop terrifiant. Puis, dans l'Ancien Testament, on sait que dans l'Ancien Testament, les saints qui étaient sauvés, ils ont connu aussi une relation similaire à la nôtre par la foi avec une compréhension avancée. Un peu comme dans le psaume 51, il dit si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, un cœur brisé et contrit qui vient dans la présence de Dieu. Eux, ils connaissaient ça quand même, mais selon la loi de Moïse, il n'y avait pas cette relation-là intime avec Dieu. Il y avait des intermédiaires. On sait qu'il y avait des voiles là, entre dans le temple, qui pouvait pas tout le monde qui pouvait passer au travers du voile. Les étrangers ne pouvaient pas entrer dans le parvis. Puis après ça, ben, c'était les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans le lieu saint. Puis ensuite de ça, c'était le souverain sacrificateur qui pouvait entrer, puis pas en tout temps, mais juste une fois par année dans le lieu très saint. Donc, là, il y avait des voiles à franchir pour arriver dans la présence de Dieu à cause de la sainteté de Dieu. Puis, c'était important, mais maintenant, nous, c'est différent. Tous ces obstacles-là ont été enlevés pour nous autres. Nous, on a une relation, on peut appeler notre Père Abba Père. Puis le terme Père, de parler du Père, notre Père qui est aux cieux, c'est un terme vraiment privilégié qui est le nôtre présentement. Vous savez, une relation Père-Fils, un fils, il ne doit pas avoir peur de son Père. Parce que dans son Père, qu'est-ce qu'il voit? Bien, il voit la provision. Il voit la sécurité, il voit l'amour, il voit la protection, il voit dans son père, puis même la correction quand elle est nécessaire. Donc, le peuple juif n'appelait pas Dieu leur père. Nous, on peut l'appeler notre père. Dans Romains 8, 14 et 16, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, on a vraiment une relation, une grande relation. C'est pour ça qu'il leur disait de ne pas retourner en arrière. La relation qu'il y avait présentement était tellement plus intime, plus grande. Il dit, et nous, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, comme eux, ils étaient dans la crainte. Mais il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, on peut s'approcher de Dieu, puis quand on est dans nos besoins, on s'approche de lui, on parle notre Père. Abba, Père, on vient dans sa présence en sachant qu'il nous est favorable, puis on n'a pas à craindre. On n'a pas à craindre la montagne à embraser et tout ça, là. C'était vraiment un avertissement qu'il leur donnait, là. Dans Galates, au chapitre 4, verset 6, il dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Fait nous, on a une relation tellement plus grande de s'approcher de Dieu. On peut s'approcher par l'esprit. L'esprit rend témoignage à notre esprit. On est des enfants de Dieu. Dieu est notre Père. On peut s'adresser à lui comme un Père. Puis ça c'est vraiment important. Des fois, quand on était avec les enfants, on allait dans un magasin, quelque chose de même. Puis quand ils étaient petits, des fois, je les laissais faire. Ils se mettaient à vagabonder. Puis je leur disais, restez prêts, là, parce que si vous vous perdez, ça sera pas le fun. Puis des fois, je les laissais faire, mais je les surveillais. Puis là, à un moment donné, quand je les voyais, là, ils s'en allaient, puis ils se perdaient. Puis à un moment donné, quand ils ne me voyaient plus, là, ils paniquaient. Mais là, j'arrivais, puis je leur disais, regarde, faut pas que tu t'éloignes, faut que tu restes proche. On gardait quand même un œil sur les autres pour leur montrer, regarde, on est là, on va prendre soin de vous, mais suivez-nous, restez proche de nous, parce que c'est là qu'est la sécurité. C'est la même chose pour nous autres. Vous savez, s'approcher de la montagne au verset 20, c'était la mort, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Donc, c'était la mort. Mais pour nous, là, nous, on est invités à s'approcher. Eux, ils ne devaient pas s'approcher. Mais nous, on est invités maintenant à s'approcher. Regardez au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. Toutes des choses merveilleuses. Donc, on a pu s'approcher de ces choses-là, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Et vous, comment, eux, ils ne pouvaient pas s'approcher. Mais nous, on est invités à s'approcher, puis même on doit s'approcher, parce qu'on a besoin de s'approcher pour notre marche. Parce que si on ne s'approche pas, si on s'éloigne, on va pas marcher comme il faut. Il faut vraiment qu'on s'approche. On est invités à s'approcher. Voyez-vous, dans le chapitre 10, il en parle aussi, verset 19 à 22. Chapitre 10, 19 à 22, il dit: Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, nous autres, c'est vraiment merveilleux. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. C'est comme si Dieu l'avait déchiré, c'est Dieu qui l'a déchiré pour nous montrer que maintenant l'accès nous est ouvert. Pas à tous, mais à ceux qui sont sauvés par le sang précieux de Christ, puis qui marchent dans la lumière, puis le sang de Christ, si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché, puis nous garde dans la communion. Nous, on a un privilège vraiment merveilleux, là. Mais il faut s'approcher pour la vie. Quand tu parles de la montagne de Sion, là, la montagne de Sion, quand on parle de Sion, c'est sûr, c'est Jérusalem, mais c'était une partie de Jérusalem. C'était la place où David habitait, le roi qui leur avait donné la victoire, le roi vainqueur. Sion nous parle de demeurer avec le roi qui nous a donné la victoire. C'est ça quand il nous parle ici de la Jérusalem d'en haut, le Sion, quand il nous parle, attendez un petit peu, des cieux, des justes peuvent nous approcher de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. C'est de ça qu'on s'approche, là. Ça nous représente la victoire, nous autres, cette Sion-là. Ça nous présente la victoire avec notre David, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. C'est la cité de Dieu, la Jérusalem céleste. C'est là où Dieu a choisi de mettre son nom. C'est la présence de Dieu. Puis on est invité à s'approcher de cet endroit-là. C'est l'endroit béni de tous ceux qui auront mis leur confiance en Christ pendant son rejet. Comme ceux qui ont suivi David dans son rejet, puis qui ont régné avec lui dans sa gloire, ben, ils s'étaient attachés à David dans son rejet, puis dans sa victoire, ils ont participé à sa victoire. Vous savez, les anges se réjouissent pour un pécheur qui se repent. Dans Luc 15, 10, il dit de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Mais imaginez-vous la joie qu'il va avoir quand des pécheurs auront atteint la gloire dans la perfection. Des pécheurs sauvés qui ont été rachetés par le Seigneur Jésus-Christ, ils ont marché à travers les obstacles, qui ont surmonté les obstacles, les épreuves, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ qui les a corrigés quand ils ont eu besoin, comme la nuée témoin de Hébreux 11. Imaginez-vous quelle joie quand ils vont être tous rassemblés dans la présence de Dieu, dans la Jérusalem céleste, pour glorifier le Seigneur. Il va être admiré dans ceux qui auront cru, dans 2 Thessaloniciens 1 qui nous dit, hein, lorsqu'il va venir pour être admiré dans ceux qui ont cru. Ça c'est l'œuvre du Seigneur. Puis c'est vraiment important. Imaginez quelle joie qu'il va avoir dans le ciel. Mais On pense à de la joie des fois, là, c'est comme on a de la joie, puis après ça, on dit après la joie vient la peine. Mais c'est pas, ce ne sera pas ainsi dans l'éternité. Ça va être une joie qui ne finira plus. Ça va être une joie éternelle. Parce qu'on va voir vraiment la puissance du Seigneur Jésus, notre le chef et le consommateur de la foi, celui dans la carrière duquel on a couru les yeux fixés, puis qu'on n'a pas laissé les fardeaux, le péché, puis l'âme lassée ou abattue, qui on a continué. Puis quand on a eu besoin, on va dire, quand j'ai eu besoin, le Seigneur m'a corrigé pour m'emmener au but. C'est vraiment merveilleux quand on pense à toutes ces choses-là. Quel privilège extraordinaire qu'on a. Le temps est arrivé maintenant, je vais m'arrêter, puis je vais vous laisser prendre votre micro. Si vous avez des commentaires ou des questions, on va attendez, ask all to. Si jamais vous avez un problème de prendre votre micro, des fois, si vous attendez un petit bout de temps avant de prendre votre micro, ça, vous n'êtes pas capable, faites-moi signe, puis je vais vous donner votre micro. OK. Lévi a un peu de difficulté. Attends un petit peu, on va aller voir ça. Attendez. OK. Est-ce que tu réussis là, Lévi? T'as pas réussi? Attends un petit peu, on va aller voir.
Bon, je pense que ça fonctionne.
Ah là, ça
Ouais.
marche. Là, on t'entend. Oui.
OK, alors, j'ai comme toi, petit point. Ouais,
OK.
disons, merci beaucoup, hein, c'est vraiment bien. Je pensais à quand tu parlais de David, hein, il était déchiré dans son âme, c'est compréhensible aussi,
Oui.
tant si longtemps qu'il n'a pas confessé. Mais je pensais à ce verset dans la Bible, on voit ça, c'est pas une sorte de tournée, mais dans Matthieu 12, 20, ça dit que l'Éternel ne brisera point le roseau cassé. Hein?
Le lumignon qui
Il
fume.
n'éteindra point le lumignon qui fume.
Ouais.
C'est quand même beau, hein?
Oui.
C'est vraiment beau,
Ouais.
ce verset-là.
Ouais.
Ensuite, on a parlé de la sanctification. C'est certain, donc tout ce que tu as apporté, ça nous dirige vers la sanctification. Mais il y a quelque chose aussi qui est merveilleux, c'est que Dieu a commencé cette œuvre en nous. Hein? Dieu l'a commencé cette œuvre. Et c'est la joie que ça me donne. Il dit qu'il va l'achever.
Ouais.
Alors, je suis content de ça. Merci Seigneur. Ensuite, je n'avais jamais réalisé ça, que c'est la deuxième naissance qui prédomine.
Ouais.
Comme tu as mentionné, j'ai trouvé ça beau. D'une certaine manière, on voit que la nouvelle naissance, hein, qui prédomine.
Ouais.
Puis on pense à Jacob, Ésaü, ce fut Jacob qui est né en deuxième.
Oui.
Après ça, bien, si on regarde Ismaël puis Isaac,
Oui.
Ismaël était le premier,
Oui.
donc c'était Isaac. Après ça, le premier Adam, tu voulais pas, le premier homme, tu parlais d'Adam, j'imagine.
Oui. Oui.
Le deuxième, Jésus.
Oui.
Après ça, on pourra dire aussi la première alliance, la deuxième alliance.
Oui.
Je trouve ça va bien. J'ai bien aimé ton petit frère, ton grand frère, qui a tendu la main vers toi.
Ah oui,
C'est
ouais.
merveilleux, hein?
Ah oui, c'est vraiment.
Tu pourras jamais l'oublier, hein?
Non, non, j'oublierai
Lui
jamais.
oubliera jamais ça non plus.
Non, non.
Un peu comme David quand il a dit, quand il cala dans la mer, Seigneur, sauve-moi, puis Jésus a tendu la main.
Pierre.
J'achève.
Ouais. Ah non, non,
J'achève.
c'était Pierre, je pense que t'as dit David, je suis
Ah oui,
sûr.
c'est Pierre, oui.
Ouais.
Ah, merci beaucoup. Ensuite, je pense à. Tu m'as emmené nostalgique un petit peu. Je me rappelle, j'ai voulu revenir au bout de 3 ans, de 3, 4 ans, quand tu parlais à propos de notre père. Je me souviens quand mon père me prenait pour me bercer.
Ouais.
Ça m'a rappelé ça.
Ouais.
J'aimerais ça revenir là un moment.
OK,
Quand il me berçait, là, je lui arrachais les poils sur le bras,
ouais.
puis il ne disait pas un mot. Pourtant, il était malin. En tout cas, c'est ce que je voulais partager. Que le Seigneur vous bénisse ensemble.
Ouais, merci.
Ouais.
Ouais.
Oh. Moi, j'ai accroché sur le verset 15.
OK.
Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Puis, je comprends que les Juifs voulaient retourner à l'ancienne alliance.
Ouais.
Donc, ils voulaient retourner à la loi alors que ce qui leur était offert à travers Jésus-Christ, c'est la grâce.
Ouais.
Hein? Donc, mais ce que j'ai trouvé étrange, c'est que tout de suite à côté, il va marquer à ce que aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés.
Ouais.
Donc, il devait voir un danger là, quelque part, qu'il y aurait des troubles là. Mais je trouve que ça fait un gros contraste. On
Oui.
parle de la grâce de Dieu,
Oui.
puis là, tout de suite à côté, on fait un avertissement sur les racines d'amertume. C'est vrai que les racines d'amertume, ça produit des rejetons, puis ça fait du trouble, puis ça divise les assemblées.
Oui, c'est vrai. Mais la grâce, dans un sens, la grâce est le remède à l'amertume. Quand on a de l'amertume, c'est parce qu'on pense qu'on a été maltraité par quelqu'un. Puis on tient des ressentiments, mais la grâce va. Qu'est-ce qu'elle fait, la grâce? Elle va dire, ben, elle va pardonner. Parce que nous autres, on peut pardonner parce qu'on a été pardonné beaucoup.
Exactement.
Ouais.
C'est notre conscience de notre pardon
Ouais.
qui nous
Pousse à pardonner les autres.
qui pousse à pardonner. Ouais.
C'est ça. Ouais. Si on pardonne, mais il n'y a plus d'amertume.
Non, c'est ça.
Le meilleur pour le cas.
Meilleur pour le cœur.
C'est vrai que l'amertume peut produire même des problèmes de santé physique.
Exactement.
Oui, ça gruge le foie, puis
L'amertume est.
l'estomac.
Ouais. L'amertume est beaucoup plus dommageable pour celui qui a l'amertume que celui qui en est l'objet.
C'est l'objet de l'amertume, oui.
Oui, vous parlez un petit peu d'amertume parce que j'avais vécu avec un frère, à un moment donné, on avait eu un petit quelque chose. Là, on s'était rencontrés, on s'était pardonné. C'était correct, c'est ça qu'il fallait faire. Mais j'avais toujours d'amertume dans mon cœur par rapport à ça revenait. Là, je disais au Seigneur, je ne peux pas vivre avec ça, là. Je ne suis pas bien.
Non.
Là, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, enlève-moi ça, ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, quand j'ai crié au Seigneur, ça a tombé. Puis là, j'ai senti une paix dans mon cœur. C'était réglé, le pardon m'était fait, l'amertume n'était plus là.
Merci Seigneur.
Oui, merci Seigneur. Puis,
Amen.
ouais, c'était. J'avais de la joie dans mon cœur après.
Ouais. Et ça, il faut gérer ces choses-là. Si on ne les gère pas, on reste avec. C'est dans la présence du Seigneur qu'on les gère. Ouais.
Les racines d'amertume, ils peuvent être comparées à des racines de chien, hein?
Ouais.
Si on ne contrôle pas, ça va loin, les racines de chien. Pour ceux qui connaissent un peu, qui travaillent le sol, là,
C'est
font des jardins,
envahissant.
oui, mais si on ne les contrôle pas, c'est envahissant.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que moi, je vois dans les racines d'amertume une belle comparaison avec les racines de chien.
Ouais.
Pour ceux qui connaissent ça, là, ils
Ouais.
vont comprendre que c'est important de ne pas laisser longtemps les racines d'amertume dans le cœur. Parce qu'après ça va être de plus en plus difficile à s'en débarrasser et à les contrôler. Alors.
Il y a des gens qui sont morts dans l'amertume. Même moi, il y avait quelqu'un qu'on a connu, c'était pas un chrétien, mais il avait eu un Moulinsy, puis finalement, il s'avait fait avoir, puis il a tout perdu, puis il a passé sa vie à en parler. À tout fait, il parlait toujours de ça au point que sa femme ne voulait plus l'entendre parler, puis ses enfants ne voulaient plus l'entendre parler, puis il a fini tout seul dans un sens, dans cette amertume-là, au lieu d'avoir passé par-dessus ça. Puis, mais c'est pour ça, ça peut arriver qu'on finisse dans l'amertume, puis ça, c'est vraiment triste.
Ça peut finir par un chat complètement envahi de chiens dents.
Ça.
Puis tu peux plus travailler le sol parce qu'il y a trop de chiens dents.
Ben, c'est ça.
Comme tu dis, l'amertume dans le cœur, ça nous laisse faire. Comme tu dis, ton exemple du monsieur, il est mort dans l'amertume.
Ouais, il est mort dans la merci, malheureux,
Oui.
parce qu'il n'a jamais passé par-dessus cette situation-là.
Ouais.
Ça serait, si lui, ce n'était pas un chrétien, mais pour un chrétien, c'est triste de finir dans l'amertume. Puis aussitôt quand quelqu'un est dans l'amertume, aussitôt qu'on touche le point, là, ça, tout décolle, puis ça revient, tout le souvenir de tout ce qui s'est passé avec tous les détails. Mais celui qui pardonne, puis qui est la grâce, il va tout essuyer ça, puis on n'en parle plus. Corrie ten Boom, elle a vécu des choses difficiles. Elle a vu sa famille se faire tuer par des SS. Puis à un moment donné, après qu'elle a été sauvée, elle était à quelque part. Puis elle a vu, il y avait un des gardes qui les avait maltraités, qui était là, mais il était sauvé. Puis elle avait de la difficulté parce qu'elle avait de l'amertume dans son cœur. Puis à un moment donné, elle a géré ça. Puis elle a dit. Est allé lui donner la main puis lui pardonner. Puis ça, c'est une grande libération. Elle racontait, je lisais quelque chose, elle disait ça, il y avait des gens qui disaient que quelqu'un avait mal agi envers eux autres, mais il avait pardonné. Elle dit, es-tu certain qu'il avait mal agi envers toi? Oui, j'ai les preuves, il sort toutes les preuves. Ben, si tu avais pardonné, tu n'auras pas de preuves. Tu aurais détruit les preuves. Pourquoi qu'il gardait des preuves s'il avait pardonné?
Moi, Gérald, il n'y a pas tellement longtemps, là, un de
Ouais.
mes frères qui a eu de l'amertume envers lui.
Ouais.
Ben, ça n'a pas duré parce que j'ai allé le voir, puis j'ai réglé ça. J'ai
Ouais.
rendu un grand service, puis c'est merveilleux. J'ai
C'est...
lui retrouvé la paix.
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est bon. OK, le temps est arrivé. On va terminer par un mot de prière. Puis après ça, s'il y en a qui veulent continuer de jaser, on peut jaser, mais ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur, notre Dieu, on veut te louer, t'adorer, notre Dieu, parce que toi, tu n'as pas eu l'amertume envers nous. Oui, on t'avait offensé, Seigneur, d'une façon grande. Nous, tes créatures, on était contre toi, on était dans une rébellion, on s'était joint à ton ennemi. Et notre Dieu, c'est toi qui as initié la réconciliation en nous envoyant ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, donne-nous de vivre dans la grâce. Puis on te remercie, Seigneur, pour le châtiment que tu nous donnes quand on se détourne pour nous corriger, nous convaincre, nous corriger, puis nous instruire dans la justice. Seigneur, on te remercie pour tout ça. On te demande, à cause de tous ces exemples-là, qu'on puisse courir dans la carrière, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. La carrière qui nous est ouverte, c'est lui qui a suscité la foi, puis c'est lui qui va la rendre à la perfection. Comme le frère a mentionné, Paul pouvait dire. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On te remercie, notre Dieu. Merci pour tous ceux qui sont présents ce soir. Bénis chacun, Seigneur, puis fortifie-nous. Encourage-nous. On presse, Seigneur, parce qu'on attend le retour bientôt du Seigneur Jésus-Christ. Fait que garde-nous dans tes voies. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.